Je vous invite à ouvrir votre Bible dans le Cantique des Cantiques. Alors nous avons vu beaucoup de choses dans ce premier chapitre et même dans le début du deuxième. Et faut reconnaître qu'en peu de versets, nous avons eu là un flot d'informations. Il y a beaucoup de mouvements. On se trouve dehors, on se trouve dedans, on fait beaucoup de rencontres, on a la Sulamite, il y a ces femmes de Jérusalem, il y a le roi Salomon, et puis c'est tout à fait normal qu'on se sente un petit peu débordé, parce que c'est un peu le style du récit. On l'avait dit en préambule, mais le premier chapitre, il nous fait comme rentrer dans le feu de l'action. Donc là, on prend connaissance de tout ce qui se passe, on est pris dans le flot, on découvre les choses, et puis à fur et à mesure, à partir de maintenant, les choses vont se poser. Voilà, on est rentré dans le feu de l'action, et maintenant, hop, un peu comme un torrent qui jaillit, et puis après, ça se calme, mais c'est pas pour, ça continue son périple. Alors, en quelques lignes, nous avons découvert une jeune femme qui, de paysanne, se retrouve dans le palais royal. Et pas n'importe où, de cette jeune femme qui est simple, qui se retrouve là à être préparée au milieu du harem, elle qui avait plutôt un style de vie de paysan, quoi. Elle se retrouve avec des pommades, avec des colliers, avec des parfums. Alors il faut imaginer hein, toute cette ambiance avec ses beaux vêtements, enfin toute cette ambiance. Hein. On a découvert l'état d'esprit des jeunes filles du harem, très excitées, très sensuelles. Elles sont là pour plaire, elles sont là pour charmer, et elles poussent cette jeune fille à rentrer dans cette mentalité. On a découvert un roi Salomon, pardonnez-moi l'expression, mais qui ne s'arrête pas d'aimer. Il va femme après femme, et on a vu là son approche auprès de la Sulamite, prêt à lui faire des promesses. Et puis on a surtout compris que cette jeune femme qui s'appelle la Sulamite, elle aime quelqu'un, elle aime son bien-aimé, et on a vu que vraiment son cœur est attaché à ce bien-aimé. Et tout ça on l'a vu en quelques lignes, mais on pourrait aussi le voir et le comprendre. Vous allez comprendre pourquoi j'aborde cet aspect-là, mais c'est aussi beaucoup d'informations, parce que ça s'est passé en presque en une journée, cette histoire-là. Par exemple, là, on va commencer notre lecture à partir du verset 8, mais le passage que l'on va lire, là, on va voir qu'il y a un détail qui nous explique que, en fait, on arrive à la fin de la journée. Par exemple, si vous voyez Cantique des Cantiques, chapitre 2, verset 17, la Sulamite va donner un détail de temps. Elle dit « avant que le jour se rafraîchisse ». Le jour, quand il se rafraîchit, c'est la fin de journée, quoi. C'est le début de soirée. Et en fait, tout ce que l'on a vu, ça a été un flot d'informations, de rencontres, parce que ça s'est passé comme ça en une journée. Quelque part, si on devait replacer la journée de cette femme, elle est descendue. Ben, vous le connaissez, les paysans, ils vont de bonne heure, hein, à l'extérieur. Elle est descendue de bonne heure, voir comment ça se passait. Il y a le cortège royal qui est passé. Comme on l'a vu, elle s'est laissée embarquer. Mais voilà, dans la matinée, probablement, elle s'est retrouvée dans le palais royal. Et pendant la journée, on l'a apprêtée, on lui a mis des colliers. Ça prend forcément du temps. Pourquoi on l'a apprêtée? Pour que le roi, en fin d'après-midi, dans la journée, dans l'après-midi, il aille choisir celle avec qui il va passer sa nuit. Hein, ce n'est pas plus, plus spirituel que ça. Et tout ça, ça s'est passé comme ça. Et quand il a rencontré la Sulamite, il a vu qu'elle mettait quelques distances. Et puis on se retrouve là. Ce soir, ce qu'on va lire là, c'est un passage où justement la Sulamite, non seulement elle a renvoyé le roi Salomon, donc lui il est parti dans ses appartements, il est allé faire ce qu'il avait à faire dans son coin. La dernière phrase que nous avons partagée, c'est ce verset 7. Où la Sulamite dit aux jeunes filles, « Je vous en conjure, filles de Jérusalem, par les gazelles et les biches des champs, ne réveillez pas l'amour avant qu'il le veuille. » Et elle était en train de dire à ses filles, « S'il vous plaît, n'excitez pas mes sens. pour un jeune homme que je ne suis pas prêt à aimer en parlant. Donc, quelque part, Salomon, il est rentré chez lui. Elle a dit aux jeunes filles du RMAO, s'il vous plaît, là, calmez un peu le jeu. Et donc, la Sulamite, là, elle se retrouve, là, à partir du verset 8, dans un contexte plus serein. Plus serein. On n'est plus dans l'agitation de la journée où il fallait la préparer. Le roi Salomon, ça y est, il est parti, donc, quelque part, on attendra demain pour remettre toutes les activités de séduction en place. Et on se retrouve là, dans un moment plus serein, et là, on va voir comment la Sulamite, dans ce contexte-là, va passer, on verra ce soir un premier rêve, mais en fait, là, il y a une partie où on retrouve la Sulamite en fin de journée, et elle va avoir un premier rêve. Une première rêverie plutôt, une sorte d'imagination comme ça, elle se laisse emporter par ses désirs. Et puis après, et on verra ça la semaine prochaine, parce que par exemple si vous lisez là, le chapitre 3, le premier verset, « Sur ma couche pendant les nuits ». Donc là on n'est plus du tout en fin de soirée, on est complètement dans la nuit quoi, elle est sur son lit, dans la nuit. Et donc là on verra aussi que même pendant la nuit, la Sulamite pense à des choses. Alors là, nous sommes donc au verset 8. Le roi est rentré chez lui. Les jeunes filles du harem se sont apaisées. Et on va voir là maintenant que on va lire les versets 8 jusqu'à 17. Et on va voir que là, la Sulamite est portée à une sorte de rêverie, de pensée. Alors, verset 8. C'est la voix de mon bien-aimé. Le voici. Il vient, sautant sur les montagnes, bondissant sur les collines. Ah, mon bien-aimé, est semblable à la gazelle et au fond des biches. Oh, le voici. Il est derrière notre mur. Il regarde par la fenêtre. Il regarde par le treillis. Mon bien-aimé me parle et me dit, « Lève-toi, mon ami, ma belle, et viens !» Car voici, l'hiver est passé, la pluie a cessé, elle n'est plus. Les fleurs paraissent sur la terre, le temps de chanter est arrivé, et la voix de la tourterelle se fait entendre dans nos campagnes. Le figuier forme ses premiers fruits, et les vignes en fleurs exaltent leur parfum. Lève-toi, mon ami, ma belle, et viens! Ma colombe, qui te tient dans les fentes du rocher, qui te cache dans les parois escarpées, fais-moi voir ta figure, fais-moi entendre ta voix, car ta voix est douce et ta figure est agréable. Prenez les renards, les petits renards qui ragent les vignes, car nos vignes sont en fleurs. Mon bien-aimé est à moi, et je suis à lui. Il fait paître son troupeau parmi les lys. Ah, avant que le jour se rafraîchisse et que les ombres fuient, reviens. Sois semblable, mon bien-aimé. Sois semblable à la gazelle et au fond des biches sur les montagnes qui nous séparent. Alors là, la jeune Sulamite n'est pas en dialogue avec quelqu'un. Elle ne parle à personne d'autre, si ce n'est à elle-même. Qu'est-ce qui se passe encore une fois de plus? La Sulamite, on est en fin de journée, la chaleur s'est dissipée, les grandes activités aussi, mais il y a une nouvelle vie qui commence. Les gens sortent un peu plus et on est dans le palais royal et la Sulamite entend des voix. Quand elle dit « C'est la voix de mon bien-aimé », on a connu, on a commencé à la connaître, la Sulamite. Dès qu'elle voyait quelque chose, elle pense à son bien-aimé. Elle saisit chaque occasion pour se rapprocher de lui. Et là, on peut imaginer la Sulamite en recul de tout le brouhaha de la journée. Et puis dans le palais royal, elle entend des voix, ce qui est tout à fait normal. Et en entendant la voix, certainement des voix masculines, elle commence à réveiller son sang. Ah, c'est la voix de mon bien-aimé. Bien sûr que ce n'est pas la voix de son bien-aimé, bien sûr. Son bien-aimé, il est dans la campagne. Là, on est dans le palais royal. Il y a vraiment quasi aucune chance que son bien-aimé ne puisse se trouver là. Mais le seul fait d'entendre une voix masculine, et elle se plaît à imaginer que c'est la voix de son bien-aimé. Elle s'accroche à cette voix pour penser à lui. Le voici, verset 8, il vient, sautant sur les montagnes, bondissant sur les collines, bien sûr que ce n'est pas lui, mais en entendant les bruits des pas. Elle imagine comme son bien-aimé qui chevauche la campagne pour la rejoindre. Là encore, au bruit des pas qui l'entourent, elle imagine son bien-aimé venir jusqu'à lui, quittant la campagne pour la rejoindre. Et puis, verset 9, elle compare son bien-aimé à une gazelle, à un faon. Certains ont peut-être un jeune cerf dans leur traduction. Elle compare son bien-aimé à la gazelle, au faon, pour évoquer sa liberté et sa grâce, notion qu'on avait déjà vue précédemment. Et plus encore, au verset 9, elle continue d'imaginer. C'est pour ça que je vous dis qu'elle est en train de rêver, d'imaginer. Elle se crée tout un petit scénario. Et là, au verset 9, elle commence à dire « Oh, le voici, il est derrière notre mur. Il regarde par la fenêtre. Il regarde par le treillis. » C'est comme si elle sent qu'il est tout proche, mon bien-aimé, me parle et me dit « Oh là 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 !» Elle est en plein fantasme, en pleine rêverie. Et puis là, c'est beau. Bien sûr que son bien-aimé n'est pas là, mais ce qui est amusant là, c'est que elle va commencer à imaginer ce qu'elle voudrait voir et entendre. Elle va commencer à dire, en disant « voici ce que dit mon bien-aimé », quelque part, elle est en train de dire ce qu'elle voudrait pouvoir entendre. Et qu'est-ce qu'elle aimerait entendre? Et c'est tout ce qu'il dit là au verset 11 à 13. « L'hiver est passé, la pluie a cessé, les fleurs paraissent, les premiers fruits sont là, le temps de chanter est arrivé. » Je pense que vous avez dû sentir là la succession des saisons. L'hiver est passé, la pluie a cessé, les fleurs et même les premiers fruits sont là, le temps de chanter est arrivé. Que signifie cette évocation des saisons, l'hiver, le printemps, l'été? La Sulamite, gardons hein, là, le cœur de la Sulamite, c'est une jeune fille amoureuse. Elle est fiancée, elle n'est pas mariée avec son bien-aimé. Et là, n'oublions pas non plus le contexte premier du Cantique des Cantiques, qui est un chant d'amour que l'on exposait, que l'on présentait à un jeune couple qui pendant les fêtes de mariage. Donc le Cantique des Cantiques, c'est un chant d'amour. Et on avait déjà vu déjà la dernière fois qu'il y avait déjà des notions par rapport à l'érotisme dans le couple et surtout la nécessité de se garder d'un érotisme trop fort, d'une excitation sensuelle trop forte. Et là, la Sulamite exprime l'impatience de l'amoureuse de voir enfin le temps des fiançailles se passer. Et c'est tout à fait normal que deux jeunes amoureux qui se plaisent et un appétit, un désir sensuel et érotique, c'est normal. Et elle a envie que ce temps passe. Parce que ce temps d'attente, c'est un peu comme un temps d'hiver. Un temps d'hiver parce que c'est le temps de la pureté, c'est le temps de la chasteté. Allez, disons-le, c'est le temps de l'interdit. On doit se retenir comparativement à la passion qui est dans le corps des deux jeunes amoureux. Il faut de la retenue. Alors, c'est une saine frustration, mais c'est une frustration quand même. C'est de la retenue, de la chasteté, de la pureté. Et ça peut être vécu comme un temps d'hiver, mais c'est surtout aussi un temps de bénédiction. Un temps de bénédiction où on laisse la pluie rentrer, fertiliser les bonnes graines qui sont déposées dans le cœur de chacun, afin que ces fleurs poussent et que ces fleurs deviennent demain de bons et de jolis fruits. Et c'est ça le temps des fiançailles. C'est à la fois un temps d'hiver, un temps de... On a envie d'aller plus loin, mais on doit se retenir. Ah ! Mais c'est un temps nécessaire pour laisser les choses se pénétrer, s'imprégner en au-dedans de nous, pour qu'effectivement il y ait cette pureté de la fleur qui demain donnera du bon fruit. Pas de précipitation. Vous savez que si on essaye de précipiter même les choses dans la plantation, on risque de gâter les choses. Je connaissais une histoire d'une petite fille qui... La maman avait rapporté un bouquet de fleurs et elle avait mis les fleurs dans un vase. Alors il y avait des fleurs ouvertes, il y avait des bourgeons et tout. Et à un moment, la maman, elle voit la petite fille qui était en train de dépecer les fleurs. Mais tu fais quoi ? Elle dit, ah, bah, mais j'aide les fleurs à venir. Ben non, elle n'a rien aidé, elle a gâché les fleurs. Mais dans son esprit, elle pensait qu'en ouvrant les bourgeons, elle allait aider les fleurs à venir. Le temps des fiançailles, c'est ça. Un temps d'attente, de frustration, mais également de nécessaire attente. Oui, cette attente impatiente qui se transforme au bon moment en chant de joie, en chant d'allégresse. Mais il y a un temps d'attente, un temps pour tout. Verset 14. Ma colombe, qui te tient dans les fentes du rocher. Rappelons-nous, hein, c'est la Sulamite qui s'imagine son bien-aimé lui dire ça, ok ? Donc quelque part, c'est ce qu'elle voudrait entendre. Et quelque part, c'est ce qu'elle exprime d'elle-même. Ma colombe, qui te tient dans les fentes du rocher, qui te cache dans les parois escarpées, fais-moi voir ta figure, fais-moi entendre ta voix. Car ta voix est douce et ta figure est agréable. Et ainsi, par la voix du bien-aimé, la Sulamite se compare à une colombe qui est cachée, mais qui désire se montrer, qui désire se faire entendre, qui désire charmer son bien-aimé. Elle désire se dévoiler, elle désire lui plaire par son amour. Elle désire le charmer par sa douceur. C'est ça qu'elle exprime. Je suis pour l'instant caché, mais j'aimerais tellement pouvoir te montrer mon visage, ma douceur, pour te plaire. Et puis on arrive au verset 15. Changement de ton. Changement de ton, car retour à la réalité. Prenez-nous les renards. Les petits renards qui ravagent les vignes, car nos vignes sont en fleurs. Et là, on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ça ? On est en plein rêve, c'est rempli de douceur, de grâce, de tendresse, on est là dans les sentiments passionnés, mais retenus, et puis paf ! Qu'est-ce que viennent faire nos renards ici ? Parce que la Sulamite, elle est en train là de laisser son imagination, d'accord, elle laisse son imagination, mais malgré tout, elle a bien les deux pieds sur terre et les yeux ouverts, et elle est consciente qu'elle est dans le palais royal, et en même temps qu'elle imagine et qu'elle désire vivre ces moments de rapprochement, avec de complicité avec son bien-aimé, elle est consciente de l'impossibilité de ce rapprochement, et je dis bien de l'impossibilité du rapprochement. Actuellement, sa situation, c'est d'être une jeune fille parmi les autres dans le harem du roi. Elle n'a pas un mot à dire, pardonnez-moi de replacer les choses. C'est juste une pauvre paysanne qui maintenant se retrouve dans le harem du roi. Il n'y a pas d'élection, il n'y a pas de choix, il n'y a pas de décision. Qu'est-ce qu'il va en avenir de sa vie ? Est-ce qu'elle va continuer à rester une jeune fille du harem ? Et son amour alors, avec lui, qu'est-ce qu'il va en devenir ? Et c'est ça qu'elle est en train d'exprimer. Comment ? En fait, la Sulamite utilise une image pour décrire la situation critique de la situation critique de la relation avec son bien-aimé. Alors, on va décoder deux petites choses. Quand il est parlé, par exemple, les vignes en fleurs. Qu'est-ce que ça veut dire ? Bah, c'est comme tous les arbres fruitiers. Avant qu'il y ait le fruit, il y a une fleur. On est d'accord ? Et c'est parce qu'on sait qu'il y a des fleurs qu'on peut avoir l'espérance qu'il y a du fruit. Et là, elle dit quoi ? Que les fleurs, les petits ranards qui ravagent les vignes, car nos vignes sont en fleurs. Il est facile d'imaginer que si vous voyez un arbre fruitier, notamment une vigne en fleurs, et que vous abîmez les fleurs, vous n'aurez pas de fruits. On est d'accord ? Et bien, c'est l'image qu'elle est en train d'employer. Et les petits renards, ben vous savez ce que c'est des renards ? C'est assez haut, assez fort. Et les renards passaient de temps en temps dans les vignes, et par leur passage, par leur force, par leur jeu, ils abîmaient les vignes, ils abîmaient les fleurs. Ce qui fait qu'ils pouvaient, par leur présence, par leur agitation, gâter la récolte qui était pourtant et qui aurait pu être prometteuse. Donc, quelque part, ce qu'elle est en train de dire, c'est que les renards, ce sont les situations difficiles, toutes ces impossibilités, et que si on laisse les circonstances continuer comme ça, et bien toutes ces chances de... Rappelez-vous comment elle avait comparé son bien-aimé à sa vigne. Je vous ramène là au chapitre 1, verset 6, quand elle dit « Ma vigne à moi, je ne l'ai pas gardée. » Elle compare son bien-aimé à une vigne. Et là, on est en train de dire « Mais notre vigne, elle était en fleurs, ma vigne était en fleurs, et par les circonstances, je suis peut-être en train de gâcher ce qui était en train de venir, de gâcher peut-être la récolte future. » Et quand elle dit « Prenez-nous les renards, c'est un cri de secours !» Et elle est comme si elle disait « Ôtez les circonstances qui nuisent à notre relation, s'il vous plaît, si on laisse faire ces renards, ils vont tout saccager. Si je reste dans ces situations, peut-être que je perdrai le fruit de mon bien-aimé, je perdrai mon bien-aimé. » Et c'est ça qu'elle est en train de dire. Parce que là, elle rêve, mais elle est consciente que si la situation perdure, elle va le perdre, son bien-aimé. Et puis au verset 16, c'est comme si elle reprenait courage. Mon bien-aimé est à moi, et je suis à lui. Et là, soudainement, alors qu'elle était en train de considérer les circonstances qui étaient en train de dégrader leur relation, c'est comme si elle refusait cette fatalité. Non, il est à moi, je suis à lui. C'est comme ça. C'est comme si elle prenait une position pour dire non. Je veux pas me laisser au fatalisme. Oh, je suis à lui et ma destinée c'est de lui appartenir et sa destinée c'est que je lui appartienne. Il y a comme cette reprise en confiance, une reprise de force, mais elle refuse la fatalité, elle se détermine. Verset 17. Verset 17. C'est comme un soupir et comme une conclusion à ce monologue. Avant que le jour se rafraîchisse, c'est-à-dire le plus tôt possible, quoi, étant donné que c'est ce qu'elle vit déjà, reviens. Reviens. C'est là qu'on sent le soupir. Reviens. Mais reviens, elle parle à qui ? À elle-même. Elle soupire. Reviens. Et d'ailleurs, tout à l'heure, elle faisait de lui une comparaison. Elle disait qu'il était comme un faon, qu'il était comme une gazelle. Mais là, elle dit, sois semblable. Sous-entendu, si seulement tu pouvais être comme une gazelle et comme une biche. Et elle est consciente de la situation sur les montagnes qui nous séparent. Et elle comprend que les obstacles entre elle et lui sont semblables à des montagnes. C'est pour ça que ce verset 17, c'est à la fois un soupir amoureux, ah, reviens, mais également une sorte de conclusion, où à la fois elle voudrait que sa petite rêverie se réalise, mais tout en étant consciente que les circonstances présentes sont aussi fortes, aussi hautes, aussi lourdes, aussi importantes que des montagnes. Alors, quelle leçon est-ce qu'on pourrait retenir de ce passage-là ? Le verset 8 m'a fait penser à quelque chose. Quand elle dit « Ah, c'est la voix de mon bien-aimé, le voici. » Ne pas confondre la voix de Dieu, la voix de notre bien-aimé, avec la voix des hommes. Il arrive que nous ayons des attentes, des aspirations. Et puis on parle au Seigneur, n'est-ce pas ? « Oh Seigneur, parle-moi !» Faisons attention de ne pas prendre la voix des hommes pour la voix de Dieu. Faisons attention de ne pas prendre notre voix pour la voix de Dieu. Et c'est tout à fait normal, dans l'apprentissage de la vie spirituelle, qu'il y ait des phases comme ça de doute, d'interrogation. La Sulamite ne s'est pas posée la question. Elle était partie dans ses rêveries. Mais en tant qu'enfant de Dieu, ce n'est pas des rêveries dont on a besoin. Ce qu'on a besoin, c'est que ce soit vraiment le Seigneur qui nous parle. Et entendre la voix de Dieu, ça s'apprend, ça s'exerce. On peut se tromper. Et je crois même que c'est parce qu'on va se tromper que la prochaine fois, on se trompera moins. Il ne faut pas avoir peur de faire des erreurs. Je ne sais pas comment vous faites, mais moi, il m'arrive assez régulièrement, quand je marche, je dis « Seigneur, où est-ce que je vais ?» Je dois aller là ou je dois aller là. Petite anecdote, là où on s'est croisé tout à l'heure, je passe jamais par là, jamais. Je passe de l'autre côté, mais jamais par là. Et là, Seigneur, par où je passe ? Il passe par là, mais Seigneur, ça... ok, j'y vais. Et on a rencontré Angelina. Il y a nécessité d'apprendre. Seigneur, c'est quoi ta voix ? Mais ça s'apprend, ça s'exerce. De temps en temps, on se trompe. Mais c'est parce qu'on se trompe qu'on va apprendre à discerner la voix de Dieu. La voix de Dieu, ce n'est pas un bruit. La voix de Dieu, elle peut se passer au travers d'une prédication, elle peut se passer au travers d'un milliard de choses. Mais ça peut être un problème quand on commence à croire qu'en allant voir le pasteur, en allant voir tel homme de Dieu, en allant consulter tel ou tel frère, alors le Seigneur va me parler. Ça, c'est une grande erreur. Pour discerner la voix de Dieu, la voix de Dieu est semblable au royaume de Dieu. C'est-à-dire, en Romains chapitre 14, 17, il est écrit que le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Et quand on demande, Seigneur, parle-moi, fais-moi comprendre ta voix, je veux entendre ta voix. Ce ne sera pas forcément un son, et certainement pas un son que vous entendrez, mais ce que vous entendrez et ce qui sera la marque de la voix de Dieu, ce sera cette paix, cette justice, cette joie qui se déposera dans votre cœur. Et ça a bien plus de poids, bien plus d'importance, bien plus de conviction. Ça s'imprimera dans votre cœur avec une bien plus grande conviction que n'importe quelle personne qui vous parlerait avec des bruits, avec un son, avec une intelligence. Et quand nous devons chercher la voix de Dieu, nous devons rechercher non pas un bruit, non pas des idées claires, mais cette approbation au fond du cœur. Quand nous préférons entendre la voix des hommes plutôt que la voix de Dieu, alors on commence à perdre le terrain de la piété. Quand on s'attend plus à ce que ce soit quelqu'un d'autre qui nous parle plutôt que Dieu directement, alors on va perdre ce qu'on appelle la foi, la confiance. On va plus s'exercer à entendre et à mettre un peu Dieu au défi quelque part. Même si ce n'est pas Dieu que l'on met au défi, c'est plutôt lui qui nous met au défi de la foi. On perd la joie. Le cœur se vide de plus en plus parce que notre cœur ne se nourrit pas seulement de paroles, mais elle se nourrit de relations et d'expériences avec le Seigneur Jésus, n'est-ce pas ? Et nous devons apprendre à retrouver la voix du Seigneur pour refortifier notre vie
et ne pas vivre dans la déception. Quelle autre leçon pouvons-nous retenir de ce passage-là ? Bah, c'est un cantique d'amour. Nous avons déjà un petit peu développé le sujet tout à l'heure, mais du verset 11 au verset 13, il y a là les saisons de l'amour. La semaine dernière, nous avons vu l'importance de ne pas mettre trop d'érotisme dans les relations de jeunes couples, dans les relations de fiancés, et ce passage le confirme. Elle nous révèle l'intérêt et l'importance de l'abstinence, de la sainteté, de la pureté. Vécu dans la chair comme un hiver, bien sûr, pas de problème. Et ce n'est pas malsain, c'est tout à fait légitime, normal et bienséant que deux jeunes gens passionnés et amoureux aient des désirs sensuels. C'est même normal. Mais on doit privilégier le travail intérieur caché, comme cette pluie qui pénètre dans la terre et qui travaille les graines, on ne voit pas. Mais pourtant, c'est bien ça qui a le plus d'importance, le plus de valeur, dans le cœur, dans le caractère, dans les réactions, dans les émotions, afin qu'au temps convenable, il y ait de bons fruits qui puissent en sortir. Méfions-nous de la précipitation, elle n'est jamais bonne. Jamais bonne. Jamais bonne. Et encore moins dans les relations amoureuses, sentimentales, affectives. Verset 15. Prenez-nous les renards, les petits renards qui ravagent les vignes. Ben nous aussi, veillons à nos petits renards. Veillons à ce qui dans nos vies peuvent ressembler à des petits renards. Vous savez, c'est mignon les renards. Hein, vous avez déjà vu des renards? Ok, tout le monde sait à quoi ça ressemble. Hein, c'est fin, c'est doux, c'est une belle petite queue, c'est une petite mine, c'est mignon. Hein, alors j'imagine quand c'est petit, déjà quand c'est petit, c'est tout de suite plus mignon. Hein, ah ouais, mais ça fait du dégât. Faisons attention à toutes ces petites choses qui abîment notre relation avec Dieu. Ça paraît si anodin, ça passe, c'est rien. Toutes ces petites choses avec lesquelles on accepte de vivre, parce que ça paraît pas si dangereux. Et pourtant, à force de passer, les renards abîmaient les fleurs, et s'il n'y a plus de fleurs, il n'y a plus de fruits. Et bien notre vie spirituelle, c'est pareil. On accepte des petites choses qui abîment notre relation. Un petit peu moins de prière, un peu moins de Bible, un peu moins d'église, un peu moins de piété, un peu moins de foi, un peu moins d'expérience. Et puis qu'est-ce qui reste? Oui, une vigne, mais une vigne sans fruits. Une vie spirituelle, mais sans les fruits de l'esprit. Ces petites choses qui peuvent paraître sans danger, mais qui nous empêchent de porter le fruit en abondance que le Seigneur voudrait tellement que l'on porte. Je me suis imaginé une personne qui lit la Bible, qui va à l'église, qui prie, mais qui sait bien que dans sa vie spirituelle, ça ne s'épanouit pas comme il faudrait. Il est probable que cette personne laisse quelques petits renards dans sa vie. J'ai mis quelques noms à ces quelques renards, mais bien sûr, la liste n'est pas exhaustive, et puis je crois que chacun, on peut identifier ses petits renards, mais j'ai pensé à la rancune, j'ai pensé aux dettes que l'on n'a pas réglées, j'ai pensé aux mensonges, aux soucis, à des péchés cachés, à l'amertume, à la désobéissance. Vous les connaissez tous ces petits renards, et on a chacun un, deux peut-être, petits renards qu'on traîne. Que nous apprenions nous aussi à les retirer, à prendre conscience que ces petites choses attristent le Saint-Esprit. Et qu'à force d'être attristé, le Saint-Esprit finit par être de moins en moins présent.